Working Class Heroic Fantasy, chapitre 18. Dans la gueule du loup. Précédemment. Le parvis de la forteresse de la Bourse de Grillec est occupé par des manifestants. Ils essaient de pénétrer dans le bâtiment, mais se font tirer dessus à balles réelles par la police. Grâce à un sortilège des magiciens, ils arrivent à repousser les assauts des forces de l'ordre. La porte de la forteresse est ouverte. Le hall de la forteresse était à l'image de son aspect extérieur. Immense, grandiloquent et provoquant un sentiment d'écrasement aux âmes qui s'y aventuraient. Le sol et les murs donnaient l'impression d'être en marbre massif. D'immenses statues, alignées contre les parois latérales de la pièce, représentaient des guerrières en armure chevauchant des pégases. Un large lustre était suspendu au milieu du plafond par une chaîne aux maillons démesurés. Les manifestants qui s'étaient engouffrés dans l'édifice furent un instant plongés dans une sorte d'admiration mêlée de dégoût devant le luxe insolent du bâtiment. Il y avait là un véritable symbole de l'oligarchie financière qui captait et centralisait l'essentiel des richesses de la terre de Grillec. Barnes repensait à Boundir, la banlieue naine où Jazion habitait, ce quartier défiguré par la pauvreté et le déclassement. Comment ces deux endroits pouvaient-ils coexister au sein de la même civilisation? Comment ne pas voir que la richesse et l'exubérance de l'un ne pouvaient se réaliser que par la paupérisation et l'asservissement de l'autre? La foule investit le hall en écartant les restes du rideau de fer éclaté. En temps normal, pour accéder au reste du bâtiment, il était obligatoire de passer par une série de guichets et de traverser des portiques de sécurité. Ce jour-là n'avait rien de normal. Les employés de l'accueil avaient déserté le hall. Si les portiques protestèrent lorsque des manifestants y pénétrèrent en transportant des objets métalliques, il n'y eut personne pour les arrêter. « C'est étrange que ce hall soit complètement désert, » murmura Mélise. « Pourquoi nous laisserait-il le champ libre? La forteresse doit disposer d'une armée de gardes. » « Je ne doute pas que nous finirons par les croiser, » dit Barnes, qui marchait à ses côtés. « En tout cas, nous sommes entrés, c'est déjà ça. Et maintenant ?» « Eh bien, nous devons trouver à quel endroit est cachée l'épée. Nous y sommes parvenus à la fabrique, à Dabra. Alors pourquoi pas ici ? Pod ?» Amélis jeta des regards à droite et à gauche pour localiser leur compagnon. Celui-ci les devançait de plusieurs mètres. Il avait participé au défonçage de la porte et se trouvait dans la première ligne des manifestants. « Pod !» l'appela Amélis. Il se retourna et fit un signe de la main à ses camarades. Mais avant qu'il n'ait pu faire un pas dans leur direction, quelque chose se passa. Quelque chose qui n'augurait rien de bon. Le sol se mit à trembler, et on entendit un bruit continu et sourd, comme le son d'une locomotive qui approche. Le système de défense de la forteresse se mettait en place. Les statues de guerrières commencèrent à se craqueler, dégageant de petits nuages de poussière. Puis, après quelques instants, pendant lesquels les manifestants assistèrent impuissants à la scène, les statues explosèrent et libérèrent leurs prisonnières. Des guerrières de plus de 2 mètres de haut, armées de piques et montant des chevaux ailés. « Des Valkyries !» s'exclama Amélise. En quelques secondes, une nouvelle bataille éclata. Les Pégases s'envolèrent. Survolant la foule, les Valkyries se mirent à assonner des coups de pique vers le bas. Les manifestants, quant à eux, lançaient tous les projectiles qui leur passaient sous la main vers leur hargneuse assaillante. Pod et toi, essayez de localiser l'épée, lança Amélise avant de s'envoler. Plus vite nous l'aurons, meilleures seront nos chances de vaincre les saletés qui défendent la forteresse. En un instant, elle était partie à nouveau dans les airs, à nouveau prête à risquer sa vie pour combattre des créatures au pouvoir mortel. Barnes s'élança à travers la foule en se baissant pour tenter d'échapper aux assauts des Valkyries. Pod était en mauvaise posture et se protégeait le visage des mains. Pod ! S'écria Barnes en le rejoignant. « Viens avec moi, il faut trouver l'épée !»«
Je suis un peu occupé, là !»
dit le gnome en évitant de justesse un coup de lance. Barnes jeta un regard autour de lui. Amélise était aux prises avec l'une des Valkyries et tentait de lui lancer des sorts tout en évitant de se faire transpercer. Jazion, quant à elle, était hors de vue.
« Viens !»
Il attrapa Pod par le bras et se mit à courir, zigzagant entre les combattants. Ils s'engouffrèrent dans un des deux couloirs latéraux par lesquels d'autres de leurs camarades se faufilaient pour échapper aux créatures volantes. Le couloir distribuait différentes pièces du rez-de-chaussée et menait à plusieurs cages d'escalier.
«
Tu te souviens de ce que tu as fait à la fabrique Adabra avec cet ordinateur? Tu pourrais le refaire?
Devinez le mot de passe?
Dit Pote d'un air incrédule.
J'ose espérer que les employés d'ici sont un peu moins branques, hein. C'est quand même le siège de la bourse mondiale.
Mais il faut qu'on trouve l'épée, vite! Pote resta pensif quelques instants, puis dit.
Essayons déjà de trouver un ordinateur. Je... Attention!
Pote se jeta contre Barnes et le poussa sur le côté. Celui-ci tomba à la renverse et vit la lance d'une des Valkyries traverser l'endroit occupé par son abdomen une demi-seconde plus tôt, et où se trouvait à présent le bras de Pod. Il y eut un bruit de chair tranchée suivi d'un bruit sourd. Barnes vit avec horreur une main tomber sur le sol. La lame avait perforé le bras droit de Pod de part en part et en avait arraché l'extrémité. Le gnome ouvrit la bouche pour crier, mais il avait le souffle coupé. Il s'écroula sur le sol en enserrant son moignon. Barnes se remit debout et s'interposa entre Pod et la Valkyrie. Elle s'était posée et leur faisait face. Son apparence, monstrueuse, semblait spécialement conçue pour semer l'effroi. Elle ressemblait à une géante avec des yeux sans pupilles, vides et froids. Ses cheveux blancs dansaient anormalement sur ses larges épaules recouvertes d'une armure de métal. Sa monture, un pégase colossal, avait le même air féroce qu'elle. Alors que Barnes se préparait à esquiver un nouveau coup de lance, tout en protégeant Pod, une aide inattendue se manifesta. Jazion, qui avait assisté à la scène de loin, avait fendu la foule pour porter secours à ses camarades. Elle était armée d'une batte de baseball. Barnes n'avait aucune idée d'où et quand elle avait pu la récupérer. Sans hésiter, elle frappa de toutes ses forces les tibias du cheval ailé qui trébucha dans un hennissement de douleur. La Valkyrie roula à terre. Jazion ne lui laissa pas le temps de se relever. Elle sauta sur son ventre et se mit à lui asséner des coups de batte de baseball sur le visage.
« Saloperie ! Enlève tes sales pattes de mes potes !»
Elle avait ponctué chaque syllabe d'un nouveau coup de batte. Bientôt, la tête de la Valkyrie ne fut plus qu'un amas informe de chair et d'os aplati et éparpillé sur le sol. Jazion poussa un dernier juron et se releva. Barnes et elle se précipitèrent sur Pod, allongé contre le mur, qui tentait de contenir l'hémorragie provoquée par sa main tranchée.
« Jazion »
murmura-t-il en arrivant à esquiver un sourire malgré la douleur insupportable qui tiraillait son bras amputé à vif.
« La vache ! Une naine qui bousille une Valkyrie à la batte de baseball ! Si j'avais su que je verrais ça un jour !» Ouais, et si j'avais eu un flingue sous la main, ça aurait été moins salissant, dit Jazion impatiemment. Bah, j'ai fait avec ce que j'avais. Comme quoi, ça m'aura quand même servi à quelque chose d'avoir appris au môme de la cité à jouer au baseball, tiens. N'empêche, je peux mourir en paix en ayant vu ça. Tu vas pas crever, Pod, s'écria Barnes. Tu vas pas crever.
Il devait pourtant reconnaître que Pod était dans un sale état et perdait beaucoup de sang. Il se releva et se précipita dans le hall où la bataille faisait toujours rage. Plusieurs Valkyries avaient été désarçonnées et se battaient maintenant contre des manifestants armés de baramines et d'armes contendantes de fortune. Barnes leva les yeux et scruta les airs. Où était-elle donc ?
Amélise ! Hurla-t-il.
Sa voix peinait à couvrir le tumulte qui régnait. La fée l'entendit malgré tout et refit son apparition.
Amélise, vite ! Pod est blessé ! Salement !
Sans poser de questions, Amélise, toujours en vol, fonça vers l'embrasure où Jazion veillait encore sur Pod. Barnes courut derrière elle, mais avant qu'il n'ait pu les rejoindre, une autre Valkyrie se posa devant lui, brandissant sa lance.
« Espèce de... » commença-t-il.
Mais il ne termina pas sa phrase et fit une roulade sur le côté pour éviter l'assaut de la guerrière. Il ressentit une douleur à l'épaule. Il avait roulé sur un débris en pierre. Un reste d'une des statues d'où étaient apparues les Valkyries. Il attrapa le morceau de pierre et se mit en position d'attaque face à son assaillante. C'était le moment de réitérer ce joli tir de pavé qu'il avait réussi à l'extérieur. Oui, mais ce tir était contre un policier en incapacité d'attaquer, pas contre une créature démoniaque comme celle-ci. Tout à coup, une clameur s'éleva dans le hall. Barnes eut à peine le temps d'en comprendre la raison. Des gerbes de lumière traversaient la pièce et s'abattaient sur les Valkyries. Celle qui le menaçait reçut un rayon d'un bleu très pâle et après avoir poussé un gémissement inhumain, se retrouva prisonnière d'une épaisse couche de glace. Les magiciennes étaient entrées. Avec le groupe antiterroriste en déroute, le bouclier antibal n'était sans doute plus nécessaire à l'extérieur. des magiciens avaient rejoint les combattants dans la forteresse. Des rayons de glace, des boules de feu, des éclats d'énergie. Tous les sorts d'attaque les plus sophistiqués et les plus puissants étaient mobilisés pour vaincre les Valkyries. Ban comprit, en voyant Carmalier accourir vers lui, que c'était Yel qui avait tiré le rayon de glace qui avait neutralisé son assaillante. « Darn !» s'écria celui-ci. « Tout va bien ?»«
Moi, ça ira. Par contre, Pod, venez !»
Alors que le reste de la foule s'achevait les Valkyries, ils rejoignirent Aménise, Pod et Jazion. Le jeune gnome était encore conscient, mais à peine. Il était blanc comme un linge. Son moignon était enveloppé dans un morceau de t-shirt. Aménise se tourna vers Carmalier.
« J'ai refermé la blessure, mais je n'ai rien pu faire pour sauver sa main, » dit-elle avec tristesse. « Est-ce que par hasard tu saurais... »
La magicienne hocha la tête en signe de dénégation. Jazion semblait sur le point de pleurer de rage.
« C'est pas grave, » fit Pod faiblement. « J'apprécie quand même le coup de main. »
Il jeta un regard à ses compagnons, le regard vague, et émit un petit rire. Amélise lui a fait un sort antalgique, comprit Barne. Il plane. Pourtant, le gnome semblait lucide.
« Bon, » continua-t-il en se forçant à avoir l'air en forme. « On va chercher cette putain d'épée. Je la porterai de la main gauche s'il faut. Dans tous les cas, hors de question d'avoir perdu la droite pour rien. »
La forteresse était prise. Ou tout du moins, le rez-de-chaussée était pris. Les Valkyries vaincues, les manifestants s'appliquèrent à installer une partie du campement à l'intérieur et à occuper le hall tout comme ils occupaient la place. Une grande partie du hall fut reconvertie en dispensaire improvisé. Amélise, Lumini et d'autres êtres magiques soignaient les nombreux blessés. Les luxueuses banquettes en cuir, qui d'ordinaire n'accueillaient que les riches fessiers de traders et de banquiers, servaient maintenant de brancards. Tant pis pour les taches de sang. On allongea les morts dans une pièce à l'écart. Ils étaient tous identifiés, éveillés par ceux de leurs camarades qui leur avaient survécu. Barne se rendit dans la pièce pour les voir. Pour voir le visage de chacun d'entre eux et ne jamais les oublier. Jeunes, vieux, humains, elfes, femmes, hommes. S'il y avait bien quelque chose qui ne faisait aucune discrimination, c'était la mort. Pod se remettait tant bien que mal de son amputation. Malgré le traumatisme que représentait la perte de sa main, le gnome semblait déterminé à garder le moral. Barn était époustouflé par les nerfs d'acier de son compagnon. Il était convaincu que lui, en de pareilles circonstances, se serait recroquevillé en position fœtale et se serait muré dans le désespoir. Pod, non. Il avait simplement tenu à s'isoler un moment dans une des pièces du rez-de-chaussée. Personne ne lui en avait tenu rigueur. Le reste du groupe, accompagné par Eluor et Lumini, était rassemblé dans le couloir. Celui où Jazion avait tué la Valkyrie, pour faire le point. Leur quête était loin d'être terminée, et il leur fallait maintenant localiser l'épée des cerfs et s'en emparer. Les étages supérieurs sont bouclés, dit Eluor. On pense que la grande majorité des cadres de la forteresse s'y sont retranchés. A priori, il y a aussi des journalistes, puisque certains sont interviewés en ce moment même sur des chaînes d'infos.
Sans blague, fit Barn avec des yeux ronds.
On n'arrête jamais la com, même en temps de guerre, surtout en temps de guerre. De notre côté, on a pas mal de manifestants échaudés qui veulent défoncer les portes.
Inutile de lancer la chasse aux sorcières.
Bah, y a Carmelia. On ne va pas risquer un massacre de traders en direct. C'est l'épée qui nous intéresse.
Je suis d'accord, dit Eluor. Et il y a peu de chances qu'elle soit cachée dans les étages de toute manière. Les coffres, les pièces sécurisées, tout cela se trouve plutôt dans les sous-sols.
De ce côté-là, remarqua Lumini, rien n'est fait. On occupe le hall. Le rez-de-chaussée devrait être à peu près sécurisé. Mais... pour ce que l'on en sait, le reste du bâtiment grouille encore de gardes, voire de trucs pas jojo du genre Valkyrie, si vous voyez ce que je veux dire.
On s'en occupera, fit Amélise avec assurance. Seul, je veux dire.
Il serait plus prudent de prendre du renfort, dit Carmalier.
Non, trancha Amélise. Assez de gens sont morts pour cette quête. Entrer dans la forteresse nécessitait un coup de force, c'est certain. À présent, nous serons plus efficaces en infiltration.
Barn sentit poindre une certaine frustration en Carmalier qui n'avait pas l'habitude d'être contredit par sa camarade de longue date. Aménise n'en tint pas compte et poursuivit.
Eluor, Lumini, les flics ont essuyé une défaite, mais ils ne vont pas en rester là. C'est tout l'appareil d'État que nous avons en face de nous. Nous avons gagné cette bataille parce qu'ils avaient incorrectement évalué la menace que nous représentions. Mais ne nous y trompons pas, s'ils y mettent les moyens, ils nous vaincront.
il faut que la forteresse et la place tiennent, au moins le temps que nous prenions l'épée.
Elle tiendra, répondit Lumini. Leur lâche attaque et notre victoire ont été télévisées. Pas mal d'hésitants vont basculer de notre côté à présent. La foule des manifestants va grossir.
Ne tardez pas trop tout de même, ajouta Luor. Je crains moi aussi la République d'État. Hein. Le bain de sang n'est pas loin.
Il a même déjà commencé, dit Amélise en jetant un regard à ses propres habits tachés du sang des blessés qu'elle avait soignés.
Si je comprends bien, dit sombrement Barbe, tout repose sur nous quatre à présent. Comment ça, nous quatre? S'écria une voix.
Ils se retournèrent. Pote se dirigeait vers eux d'un pas résolu. Il avait retrouvé des couleurs.
C'est dingue ce qu'on récupère vite à son âge, pensa Barbe. Vous pensez peut-être que vous avez même assez à deux pas de la victoire? En plus, à vous quatre, pardon, mais vous n'irez pas loin, vu que vous ne savez pas où se trouve l'épée.
Parce que toi tu le sais, demanda Carmadière.
Bien sûr, dit le gnome d'un air faussement blasé. Vous pensiez que j'étais parti enfiler des perles? Bon, d'accord, j'ai mis un peu plus de temps que l'autre fois, puisqu'il a fallu que j'utilise ma main gauche pour gérer le clavier et la souris. Mais tout de même...
Tu t'es à nouveau connecté sur un ordinateur mal sécurisé? Demanda Barne avec des yeux ronds.
T'as même pas aidé, je crois.
Encore un mot de passe ultra simple? Hasarda la Mélise.
Ah non,
fit le gnome en secouant la tête.
Question sécurité, ils étaient au top. Des caractères alphanumériques, des caractères spéciaux, très longs, très compliqués. Tellement compliqués qu'il l'avait écrit sur un post-it collé sur le mur, histoire de bien s'en souvenir. Hein.
Oh, elle est con!
S'exclama Elior. Il y eut quelques éclats de rire. Ce genre de situation était d'autant plus cocasse que le budget dédié à la sécurité informatique dans un tel édifice devait être faramineux. Oui, mais voilà, en sécurité, il suffit d'un maillon faible dans la chaîne pour que tout s'écroule. Et lorsque la chaîne comporte un facteur humain, ou elfe, ou gobelin, etc., les chances d'y trouver un maillon faible sont décuplées.
Bon, 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 fit Carmanière avec impatience. Alors, où est-elle?
Au deuxième sous-sol, répondit Pod. Escalier B2, dans une section de haute sécurité, si j'ai bien compris. Le contraire m'aurait étonné.
Elior et Lumini retournèrent vers le grand hall. Bien qu'ils eussent insisté de longues minutes pour venir également, Amélise avait fini par convaincre Lumini de rester. Les deux seules fées présentes ne pouvaient quitter toutes deux les blessés qui requéraient encore de l'attention. Elior, quant à lui, fut convaincu par Carmalière, au moyen de notions relativement abstraites pour Barne, comme la nécessaire cohésion de groupe et le besoin d'un représentant de la FNT au sein des manifestants. Tout cela ressemblait bien plus à des manœuvres politiques qu'à de véritables arguments. Mais il commençait à être habitué, de la part de Carmelia. La compagnie fila de son côté. Pod en tête. Ils dévalèrent un étage et pénétrèrent dans un couloir borgne. Ils étaient passés sous le niveau de la surface. Les couloirs restaient aussi importants et grandiloquents que ceux du rez-de-chaussée. Les plafonds étaient hauts et soutenus par d'immenses colonnes de pierre. Les pièces étaient éclairées par de fausses torches enflammées qui, à bien y regarder, semblaient simplement composées de diodes électroluminescentes. Carmanière posa un doigt sur sa bouche pour leur faire signe de ne pas faire de bruit, et ils avancèrent. Pod indiquait les directions. À l'intersection des deux couloirs, ils entendirent des pas et se figèrent adossés à une colonne. Deux gobelins bifurquèrent. Ils étaient habillés comme des policiers, à la seule différence que leur uniforme était noir et non bleu. Ils eurent à peine le temps de se rendre compte de la présence de la compagnie. Jasion frappa l'orque le plus proche au visage avec sa botte de baseball, et Amélise envoya une poignée de poudre sur le second. Le premier poussa un grognement étouffé et tomba à terre, sonné, le visage en sang. Le second s'écroula sans un bruit, endormi.
« Si un jour on doit être ennemi, fit Barne à voix basse, pitié, laissez Amélise s'occuper de moi. »«
Ah !» ricana Jasion. « C'est sûr que j'ai pas des méthodes de fée, moi !»
Ils récupérèrent les armes de poing transportées par les gardiens orques et déplacèrent leur corps derrière la colonne. « Ça ne trompera pas grand monde, » dit Carmanière, « mais ça nous laissera un peu de temps. » Ils reprirent leur route, mais s'arrêtèrent presque immédiatement. Des pas précipités résonnaient au bout du couloir. Ils trouvèrent une cachette similaire à la précédente et attendirent. Des voix d'orques retentirent.
« Simplement m'enfermer avec les autres cadres, à l'étage !» « Je persiste à dire, monsieur, que nous devrions évacuer le bâtiment. Nous ne pouvons pas assurer votre sécurité. »« Foutaise !»
s'exclama la première voix.
« Ce ne sont pas quelques révolutionnaires de pacotille qui... »
Carmania jeta un coup d'œil à ses compagnons et boucha ses lèvres sans émettre de son.
« Maintenant !»
Toute la compagnie surgit hors de la cachette. Barn et Pod pointèrent leurs pistolets fraîchement dérobés vers les orques. Ceux-ci étaient trois, deux gardiens et un autre habillé en costume, qui devait être un cadre de la forteresse.
« Qu'est-ce que... »
Carmania pointa son bras en avant. Une petite boule de lumière bleue en jaillit et se fracassa contre la gorge du cadre. La voix de celui-ci s'éteignit. Il continua d'agiter les lèvres sans effet. Il ne pouvait plus parler. Barn se rappela sa mésaventure dans les vestiaires de la Bibliothèque nationale des Prudorques, lorsque Carmelière avait jeté un sort similaire contre Pod et lui-même. Les deux gardes avaient déjà leur arme dégainée et les levèrent. Trop tard. Jasion et Amélise avaient profité du moment de flottement pour se jeter sur eux et leur réservèrent le même traitement qu'aux gardes précédents. Le cadre était à faune et ses deux gardes du corps inconscients. La menace était évitée.
« Heureusement que vous les avez maîtrisés, » dit sombrement Barn. « J'avais moyennement envie de commettre un deuxième meurtre quelques heures à peine après mon premier. »«
Moi, » fit Pod de la main gauche, « j'aurais sans doute touché le plafond. »
Sans prévenir, Jasion envoya un violent coup de batte dans les tibias du cadre orc qui tomba à genoux et eut le visage déformé par la douleur. Il aurait hurlé s'il était en capacité de le faire.
« Jasion !» s'indigna Amélise.
« Bah quoi ?»«
Il est désarmé et inoffensif. »«
Et alors ? C'est une crevure d'orque. Un qui a jamais beaucoup reçu de coups, si tu veux mon avis. Ça lui fera des pattes. Et encore, je suis souple. Vu que de notre côté, on a un pote avec une main de moins. »
Amélise lança un regard sévère qui signifiait « ce n'est pas une raison », mais ne répliqua pas. L'orque se traîna contre le mur et s'y appuya, se massant les jambes. La compagnie s'approcha et Carmelière s'accroupit pour se mettre à sa hauteur.
« Les révolutionnaires de Pacotille vous passent le bonjour, » lui dit-il. « Vous auriez dû écouter vos employés. Ils étaient de mon conseil. »
L'orque le regardait avec une haine non dissimulée dans les yeux. Il ouvrit à nouveau la bouche, mais rien ne sortit.
« Je suis désolé, » dit Carmalia, « mais je ne pouvais pas vous laisser donner l'alerte. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas permanent. Tenez-vous tranquille. »
Il se mit à fouiller l'orque, passant ses mains dans chacune des poches. L'orque se laissa faire. Que pouvait-il faire face à cinq assaillants armés, dont une qui n'hésitait pas à frapper avant de poser des questions ?«
Nous allons vous emprunter ça, » dit le magicien en agitant le badge de l'orque sous son nez. « J'imagine que ça nous permettra d'accéder à l'escalier B2. »
L'orque dévisagea chacun des compagnons dans un air de défi et ne répondit pas. Amélis s'approcha et leva les mains. L'orque dut comprendre qu'un sortilège de vérité approchait, puisqu'il se décida à répondre immédiatement et opina du chef.
« Très bien, » dit Carmelia. « En vous remerciant. »«
Vous... »
L'orque retrouvait peu à peu sa voix. Elle n'était qu'encore qu'un murmure rauque.
« N'arriverai jamais à atteindre l'épée. »
Vous n'êtes pas le premier à nous sortir des jamais. J'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, c'est le jour où on réalise l'impossible. Oui, je crois bien que jamais, c'est aujourd'hui. Au revoir. »
Amélise appliqua à nouveau son sort de sommeil et la tête de l'orque tomba sur son épaule. Après avoir dissimulé son corps endormi, ainsi que ceux des deux gardiens, autant que faire se peut, la compagnie reprit sa progression. Lorsqu'ils atteignirent la porte où était inscrit B2, Pod opina du chef. C'était l'endroit. Ils ouvrirent la porte. Un long escalier se déroulait sous leurs yeux. Il plongeait vers l'obscurité, et il était impossible d'en distinguer le bout. L'éclairage se composait uniquement de faibles lumières similaires à celles des panneaux indiquant les sorties de secours lors des coupures d'électricité. Ils s'y engagèrent. Les marches défilaient sous leurs pas et leur champ de vision s'enfonçait dans les ténèbres. Après plusieurs minutes de descente, ils n'avaient toujours pas atteint l'étage inférieur. Suspicieux, Barn s'arrêta et toute la compagnie fit de même.
La vache, s'écria Pod. Il mène au centre de la terre, cet escalier. Ils auraient pu mettre un ascenseur, grogna Jasion.
Attendez une seconde, dit Barn, qui avait un mauvais pressentiment. Il se retourna. Le haut de l'escalier était devenu tout aussi obscur que le bas, et il ne pouvait plus apercevoir la porte par laquelle ils étaient arrivés. Il remonta quelques marches, et d'un coup, il sut que son pressentiment était vérifié.
« Oh merde » murmura-t-il.
« Quoi ?» demanda Amélise avec inquiétude.
« Viens voir !»
La fée la rejoignit et poussa une exclamation de surprise.
« La porte, elle est à 20 mètres de nous !»«
Quoi ?»
s'exclama Pod.
« C'est impossible, ça fait 10 minutes qu'on s'en éloigne !»
un escalier infini, déclara Kermayer. J'aurais dû m'y attendre.
Mais c'est impossible, répéta Pod.
Non, répondit Kermayer. Seulement magique. Le véritable support est sans doute fini, mais grâce à un sortilège dont j'ignore les détails, nous ne pouvons qu'arpenter éternellement les mêmes marches sans jamais nous éloigner du haut ni nous rapprocher du bas. Yel ouvrit la main et généra un halo de lumière. Le rayon ne traversa pas la frontière de l'obscurité et le champ de vision n'augmenta pas. Kermayer baissa le bras et le halo s'éteignit. « Attendez une minute, » fit Amélis. Elle agita ses ailes et s'envola, filant vers le bas de l'escalier. Après quelques secondes, elle réapparut avec un air dépité. « Alors ?» demanda Barne au moment où elle se posait à ses côtés. « J'ai volé assez loin, et lorsque je me suis retourné, vous étiez juste derrière, à quelques mètres seulement, comme si j'avais à peine avancé. Mince, il doit bien y avoir un moyen de venir à bout de ce sortilège. » Hélas, Kermayer avait l'air totalement démuni. Si même leur magicienne ne pouvait lutter contre cette magie-là, que pouvait-il faire? Au moins, pensa Barne, nous ne sommes pas coincés au milieu, sans moyen d'en sortir.
« Et si vous restez là ?» lança soudain Jasion à Barne et à Ménise. « Et que nous, on descend, on devrait pouvoir aller plus loin, non? Tant que vous voyez la porte avec nous, on vous voit. »
Barne n'était pas certain de saisir l'idée, mais une vise le visage de Kermayer s'éclairait. « C'est une excellente idée, Jasion. Oui, le sortilège ne trompe sûrement que nos sens. » Mais comme je l'ai dit, l'escalier doit avoir un support physique fini. La seule raison pour laquelle ce sortilège peut nous tromper, c'est que nous n'avons aucun point de repère visuel. Chaque marche est semblable à la précédente et les lumières sont toutes espacées de manière égale. Vous l'avez constaté, je ne peux pas augmenter notre champ de vision. Je doute que nous puissions faire la moindre marque sur les murs. En revanche, si Barne et Amélise ouvrent la porte et que nous descendons jusqu'à la limite où nous voyons Barne et Amélise, alors nous couvrons deux fois plus de distance, conclut Barne.
« Si on se sépare tous les cinq, » poursuivit Pod avec excitation, « on a peut-être une chance de dépasser la longueur réelle de l'escalier, donc d'en atteindre le bas. »«
Ouais, » renifla Jasion.
« Voilà, c'était le genre de truc que je pensais. »«
Allons-y, » dit Kermayer.
En moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, Pod, Jasion et Yel avaient repris leur descente. Après une vingtaine de mètres, Amélise leur cria.
« Stop, on ne vous voit plus !»
Pod remonta quelques marches et sa silhouette devint à nouveau visible.
« Très bien !» fit la voix de Kermayer qui résonna dans l'escalier. « Pod, reste ici, je continue à descendre avec Jasion !»
Pendant que les bruits de pas retentissaient de plus en plus faiblement, Barne se retourna. La porte d'entrée était toujours là, de l'autre côté, en bas. Pod était également visible.
« On y est !»
La voix de Kermayer était à présent beaucoup plus distante, mais il l'entendait malgré tout assez clairement.
« On a atteint le bas » continua-t-il triomphalement. « Il y a une porte, Pod, tu nous vois toujours ?»
« Oui, j'arrive !»«
Attends !» cria Amélise. « Laisse-nous te rejoindre d'abord. Ça serait dommage que nous nous retrouvions coincés en haut et vous en bas. »
Barne et Amélise dévalèrent eux aussi la cage d'escalier. La porte derrière eux disparut à nouveau de leur champ de vision. Barne essayait de ne pas penser à l'éventualité qu'il ne puisse jamais la faire réapparaître et qu'il soit coincé en bas. Ils atteignirent Pod et poursuivirent la descente avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au niveau de Kermayer et de Jasion, ils virent apparaître une large porte blindée à travers la pénombre. Ils s'en approchèrent tout doucement cette fois.
« Très bien !» murmura le magicien. « Nous avons survécu un dragon, échappé aux tirs de la police, vaincu les Valkyries, trompé les gardiens orques, résolu le problème de l'escalier infini, et cette fois, je pense que nous y sommes. »
Les cinq compagnons se regardèrent. Derrière cette porte se trouvait peut-être l'objet tant convoité et la fin de leur aventure. S'il s'avérait qu'il s'était encore fait doubler comme à la fabrique à Dabra, a priori, dit Amélise, qui avait les yeux fermés et semblait se concentrer, je ne détecte aucune forme d'ensorcellement sur cette porte. Elle n'a pas l'air piégée. Alors c'est le moment de vérifier si ce badge vaut quelque chose, dit Barne. Kermayer prit une profonde inspiration et mit sa main sur la poignée. Aucun piège, aucun éclair, aucune explosion ne vint l'interrompre. Amélise avait vu juste. Yel passa le badge sur le petit capteur à droite de la porte. Il y eut un bip et un léger déclic. Puis, la diode rouge s'éteignit pour laisser s'allumer une autre verte. La magicienne ouvrit la porte. Le cœur battant, Barne contempla ce qui se trouvait derrière. Ils y étaient arrivés. Elle était là.